franceinter.fr.
Il est 8h20.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Martine Aubry.
Bonjour.
Il y a 3 ans, presque jour pour jour, 16 octobre 2011, les sympathisants du PS désignaient François Hollande pour être leur candidat à l'Élysée. Vous aviez obtenu environ 43% des voix. Aujourd'hui, à mi-mandat présidentiel, vous reprenez la parole pour demander un changement de cap contre une politique menée, dites-vous, au détriment de la croissance. Ça veut dire que la politique du gouvernement entretient la crise ou aggrave la crise ?
D'abord, permettez-moi de dire que j'ai tout fait pour que François Hollande réussisse à la présidentielle. On avait d'ailleurs pas mal gagné de choses avant. Et là, je veux absolument qu'il réussisse. Et mon seul objectif, c'est d'être utile dans une France qui doute. Dans une France, et je rencontre des Français tous les jours qui nous disent « on est déclassés, la France n'existe plus ». Je ne crois pas cela. On a des atouts considérables. On a vraiment des entreprises, des grandes comme des petites, une agriculture qui sont capables d'être dans les défis du monde d'aujourd'hui. Donc, la question qui se pose, et celle que se posent les Français qui doutent aujourd'hui, elle est double. La première, on ne sort pas de la crise. Comment faire confiance aux politiques s'ils ne sortent pas de la crise. Donc mes premières propositions, c'est comment sortir de la crise. Et les secondes, c'est donner un sens. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Donner un sens, reparler des valeurs. Dans quelle société veut-on aller ? Avec des réponses, bien sûr, du 21e siècle. Les nouvelles technologies, l'économie verte, les territoires qui se sentent oubliés. Donc aujourd'hui, pourquoi s'exprimer ? Parce qu'on est à mi-mandat. Je ne fais pas un bilan de ce qui est passé. Je dis voilà comment être utile, laisser débattre pour pouvoir effectivement demain réussir.
Pardon,
voilà,
pardon Martine Aubry, mais le bilan, il est dans votre texte.
Oui.
Je reprends cette phrase. Le gouvernement mène une politique au détriment de la croissance.
Oui, alors je vais y revenir. J'aimerais d'abord qu'on évite, ce qui n'est pas ce que vous avez dit vous, mais qu'on évite d'opposer ceux qui seraient des sérieux et ceux qui seraient des laxistes. Moi, je considère que le gouvernement a bien fait, et le président de la République, de se lancer vers une réduction des déficits et de la dette. Et la droite n'a pas à nous donner de leçons quand on laisse 1 800 milliards de dettes, dont 600 créés par Sarkozy, par des cadeaux fiscaux notamment à ses amis.
Donc vous ne voulez pas ralentir son rythme de réduction, pour être clair.
Non, mais il l'a ralenti lui-même, puisqu'il annonce 4,5% de déficit cette année. Et je me situe dans cet objectif-là.
Et donc à 4,5% de déficit, on ne peut pas parler d'austérité.
Non, mais attendez, 4,5%...
Non, c'est une question.
Mais moi, je n'aime pas ces mots. Est-ce que c'est de la rigueur ou est-ce que c'est de l'austérité ? Il faut faire des économies, c'est une évidence. Donc, 4,5%, c'est ce qu'a fixé le gouvernement. Les propositions que je fais, je me situe exactement
dans
là,
ce cadre.
Dans ce cadre-là. Ce que je remarque, mais je ne suis pas la seule, et ce qu'on appelle les frondeurs, il n'y en a que quelques-uns qui parlent de cela, qui sont des économistes. Pierre-Alain Muet, Jean-Marc Germain. Mais si je regarde ce que disent tous les économistes aujourd'hui sur l'Europe, comme sur la France, parce qu'on peut faire les mêmes critiques sur l'Europe, et d'ailleurs François Hollande et Emmanuel Valls les font. C'est qu'aujourd'hui, nous réduisons les déficits, mais comme nous ne permettons pas à la croissance d'exister, en fait le déficit ne peut pas se réduire, car il y a moins d'entrées liées à la croissance, et qu'il y a, malgré des hausses d'impôts et malgré des réductions de déficit. Donc qu'est-ce que je propose ? Je dis simplement... Oui, il y a un problème de compétitivité des entreprises. Là aussi, qu'on ne nous oppose pas. Voilà, j'ai travaillé dans l'entreprise, je sais ce que c'est. Et toute ma vie, je l'ai consacrée, y compris là à Lille, au développement économique. La compétitivité, elle touche aujourd'hui les entreprises qui sont dans la compétition internationale, c'est l'industrie. Ce sont les ETI, ce sont les PME qui se battent pour se moderniser. Ceux qui font des investissements, recherche, innovation, investissement d'avenir, formation des salariés. C'est vers cela que doit aller l'argent. Or aujourd'hui, aussi bien le CICE 20 milliards que ce pacte de responsabilité qui n'a pas encore donné lieu à des contreparties, 20 milliards, c'est 40 milliards de dépenses que le gouvernement souhaite consacrer aux entreprises. Moi je dis ciblons mieux celles qui en ont besoin. Est-ce qu'on a besoin de donner de l'argent aux banques, aux assurances, à la grande distribution qui aujourd'hui, faute d'ailleurs de pouvoir d'achat, ne peut ni embaucher ni créer ? Non. Est-ce qu'on a besoin d'en donner à l'entreprise qui est dans la concurrence internationale pour qu'elle se modernise ? Oui.
C'est aux possible, ETI, ça, de mieux cibler. Emmanuel Macron disait hier soir que c'est juridiquement impossible.
Ah, c'est impossible de dire « je ne m'applique qu'à l'industrie », mais c'est tout à fait possible de dire « je donne ces aides à ceux qui font de la recherche, de l'innovation, des investissements d'avenir », ce qui n'est pas le cas dans les secteurs dont j'ai parlé. Ça, c'est tout à fait possible. Et cela, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 20 milliards pour rétablir la compétitivité, mais je le dirai à M. Macron, pour moi, la compétitivité, ce n'est pas la baisse du coût du travail essentiellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes vraiment dans les moyennes et nous avons une productivité par heure travaillée qui est une des meilleures du monde. La compétitivité, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est la formation, c'est l'organisation du travail, ce sont ces investissements. Donc oui, on a un problème de compétitivité et le gouvernement a eu raison de le prendre. Mais il n'a pas assez ciblé. Donc là, il va y avoir le bilan du CICE. On va le voir. Et moi, je souhaite qu'à l'occasion de ce bilan, j'en ai parlé avec tous les responsables, évidemment, on cible mieux. Avec cet argent, c'est-à-dire à peu près 20 milliards sur les 40, aujourd'hui, décidés comme des dépenses publiques. On peut relancer la croissance, non pas par des dépenses publiques n'importe comment, mais là aussi en les ciblant, notamment sur les collectivités locales qui investissent le logement. Le bâtiment est en pleine crise, les investissements d'avenir. Et puis, en aidant les ménages, non pas en augmentant les salaires, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais par des aides, je dirais, de côté, au logement, à l'éducation de leurs enfants, etc. Voilà. Donc, voilà ce que je propose pour sortir de la crise. Moi, je n'invente pas cela. Hein. Tout le monde en parle aujourd'hui.
Martine Aubry, ce qui vous sépare de François Hollande et de Manuel Valls, ce qui vous sépare en tout cas de la politique suivie, c'est seulement quelques milliards d'euros en moins pour les entreprises ou en plus pour les ménages, ou c'est plus profond que cela?
Alors, cela, c'est pour sortir de la crise. Car tant qu'on ne sortira pas de la crise, on ne sera pas crédible pour le reste. Et je pense que réellement, c'est ce que dit Paul Krugman, le prix Nobel d'économie.
Littérature.
On est ravis d'avoir quand même dit un nom à la littérature. C'est ce que disent tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le chef économiste de la Banque mondiale dit la même chose. Le FMI, qui n'est ni frondeur ni gauchiste, dit la même chose. Pour l'Europe comme pour la France. Moi, je le dis pour les deux. Il faut rétablir l'équilibre, le dosage. Il faut continuer à réduire les déficits, mais pas au détriment de la croissance. C'est un problème d'équilibre et c'est celui-là qu'il faut trouver. Donc, discutons-en. Ce n'est pas... Ça, c'est la première chose.
D'où vient l'erreur, d'ailleurs? Le gouvernement a cédé à l'influence de l'Europe, des marchés, des patrons, des énarques de Bercy, là-dessus?
Écoutez, j'en sais rien. Et puis, moi, j'aime pas caricaturer les choses. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que cette politique, tout réduction de déficit, donne l'effet inverse, car on perd, encore une fois, du côté de la non-croissance, ce qu'on gagne d'un côté. Donc, il faut rétablir les choses. Puis, la croissance, c'est aussi des emplois, c'est aussi du pouvoir d'achat, c'est l'espoir qui revient. Donc, ça, c'est la première chose. Et là, je pense qu'on peut avoir un débat sans invective. C'est un débat de fond qu'encore une fois, le FMI tient les mêmes propos et beaucoup d'autres. Alors, après cela, il y a la deuxième question. C'est de quoi devrions-nous parler pour préparer la France de demain? Et d'abord, redonnons de la cohérence. Moi, je l'ai dit, le gouvernement a fait de bonnes choses. D'abord, sur des sujets que la droite avait laissé tomber, la sécurité. J'ai félicité Manuel Valls, aussi bien comme ministre de l'Intérieur que comme Premier ministre. Les moyens donnés à la police, à la justice, dans l'éducation, où on peut remettre les enfants à 2 ans à l'école, les rythmes scolaires. Mais là, je regrette qu'on n'ait pas présenté la réforme autrement. J'y reviendrai. La loi sur la transition énergétique, qui est en train de préparer Ségolène Royal, va dans le bon sens.
Mais il manque, dites-vous, cap, un discours politique.
Je crois qu'il faut montrer la cohérence de tout cela. Reprenons l'éducation. Les réformes qui ont été faites sont formidables. Et aujourd'hui, si on veut redonner de l'espoir aux Français, il faut donner chaque chance, la même chance à chaque enfant. On n'a pas présenté la réforme des rythmes scolaires qui était essentielle, que j'ai défendue, comme on aurait dû la présenter, avec les moyens qui ont été donnés à l'éducation nationale. C'est-à-dire, nous voulons redonner sa chance à chaque enfant. On veut profiter de cette réforme des rythmes scolaires pour leur apprendre à s'exprimer bien, à avoir des éléments logiques. On veut mettre le numérique dans les écoles parce que ça permet une éducation, une pédagogie plus personnalisée. Voilà. Donnons du sens. Et quand je vois tous les atouts de la France, vous savez, je suis... chargé par le gouvernement d'une mission sur la Chine. Nous avons toutes les entreprises dans les grands enjeux de demain. Que ça soit bien manger, l'alimentation, bien se soigner, on est dans les meilleurs du monde, bien construire et avancer dans le développement durable. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, sur l'économie numérique, sur l'économie verte, sur l'aménagement du territoire avec toutes ces communes où les gens perdent espoir.
Martine, voilà. Vous dénoncez aussi les vieilles recettes libérales. Le travail du dimanche, par exemple, c'est une ligne rouge pour vous?
Ah oui. Pour moi, le travail du dimanche, c'est pas parce que c'est un acquis des travailleurs. Je ne suis pas la ringarde qu'on veut faire croire. Pour moi, le travail du dimanche, c'est un choix de société. Et là aussi, on revient aux valeurs. Est-ce que notre société doit consommer 7 jours sur 7? Est-ce que c'est cela, ce que l'on veut montrer? Est-ce qu'on n'a pas une journée où on peut passer en famille, avec des amis, la culture, le sport, rêver, tout simplement faire ce qu'on veut. Voilà. Et c'est d'abord un choix.
Ça, comme
ça
vaut pour les Français, mais il y a des touristes aussi, vous le savez.
Voilà. Mais alors, c'est moi qui ai mis en place les zones touristiques quand j'étais ministre. Donc, qu'il faille faire les aménagements dans les zones touristiques, parce que là, il y a du pouvoir d'achat qui peut venir. Alors que les Français, c'est pas parce qu'ils auront 7 jours au lieu de 6 qu'ils vont consommer plus. Et puis, permettez-moi un dernier mot, parce que moi, j'y tiens beaucoup. On va casser le petit commerce. Ce petit commerce qu'on se bat pour amener dans nos quartiers, dans les zones rurales. Si les grands magasins sont ouverts le dimanche, quand on est seul avec sa femme ou avec un employé, on ne résiste pas. Et ça, c'est dramatique. Regardez les pays qui ont plus de petits commerces. Il n'y a plus de vie. L'Italie a eu raison de garder beaucoup de petits commerces et pas trop de grandes surfaces. Et pour moi, c'est essentiel. C'est d'abord des pertes d'emplois et c'est des pertes de vie dans les quartiers et dans les petites communes. Donc, réellement, le travail le dimanche, oui, dans les zones touristiques. Des aménagements, on a déjà que 5 dimanches, c'est très très bien. Mais attention, attention au modèle que l'on veut créer entre nous, dans la façon de vivre, et attention aux petits commerces.
5 dimanches, ça va, 12, c'est trop.
Oui, parce qu'à ce moment-là, je crois vraiment que ça abîme le petit commerce de manière très importante.
La mise sous condition de ressources des allocations familiales, Martine Aubry, vous aviez déjà pris, vous, comme ministre des Affaires sociales, sous le gouvernement Jospin, une mesure similaire, vous aviez privé 300 000 familles environ d'allocations.
Lionel Jospin avait pris cette position, je n'étais pas d'accord à l'époque.
Ah, vous n'étiez
pas d'accord ? On était revenu dessus.
Oui. Voilà. Vous n'aviez pas manifesté de désaccord à l'époque.
Mais moi, quand je suis dans un gouvernement, je parle à l'intérieur, mais pas à l'extérieur.
D'accord. Voilà. Donc vous êtes toujours en désaccord aujourd'hui avec ce principe ?
Non, je comprends très bien la proposition qui est faite à un moment où il faut donner du pouvoir d'achat. Ce que j'aurais aimé là aussi, Jean-Marc Ayrault avait lancé cette réflexion avec les associations familiales, c'est qu'on dise. Quelle est la politique familiale du 21e siècle ? Quand en 1917, on a créé les allocations familiales, le pays avait perdu, avait beaucoup de morts, il fallait faire des enfants, il fallait aider chacun. Aujourd'hui, est-ce que, et là c'est là où je rejoins, est-ce que la vérité c'est que certains peuvent se passer de ces allocations ou du quotient familial ? Car aujourd'hui, et ça on ne le dit pas, moi c'est cette réforme que j'aurais aimé, c'est que l'État aide plus les familles aisées si on ajoute les allocations familiales et le quotient familial. On peut donner à chacun la même chose, parlons de ces allocations universelles, mais relions les deux. Voilà ce que j'aurais préféré, même si je comprends qu'aujourd'hui, c'est une mesure rapide et qui donne des résultats. Deuxièmement, égalité homme-femme. Et là, les mesures sur le congé parental est une bonne mesure. Et troisièmement, on ferait mieux aujourd'hui de se dire certaines femmes de milieux aisés, certains hommes de milieux aisés n'ont pas besoin de cet argent. Donc, baissons allocation familiale, quotient familial pris ensemble, mais mettons en place des nouveaux modes de garde. Ça, c'est une politique familiale du 21e siècle. Je préférerais qu'on la présente ainsi et qu'on la... Je pense qu'on va peut-être le faire ainsi, mais pourquoi ne pas expliquer cela ou le dire, je veux faire des économies, donc je baisse les allocations familiales. Donc, je reviens toujours à la même chose, même quand c'est bien sur l'éducation, c'est bien sur la politique familiale. Pourquoi ne pas présenter le sens, les valeurs, pour que les Français comprennent et n'aient pas l'impression qu'on cherche toujours à faire des économies et qu'on ne parle que de fric et que d'argent alors qu'on a besoin de sens et de valeurs.
Même quand c'est bien, c'est pas bien quand même.
Non, c'est pas
tout
bien
ce que
présenté.
Vous dites ce matin, Martine Aubry.
C'est pas bien présenté. Ah non, mais c'est différent.
Tout ce que vous dites ce matin, Martine Aubry, vous l'avez signifié en tête à tête aux responsables de l'exécutif.
Bien sûr, ça fait 2 ans que j'ai vu à plusieurs reprises François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls. Je leur ai toujours dit ce que je pensais.
Et il ne s'est rien passé.
Très directement, non. Il ne s'est rien. Et je l'ai dit aussi à plusieurs ministres, et je ne vais pas dire les secrets ici des choses, mais je pense que beaucoup sont inquiets et se posent les mêmes questions. Je veux dire, quand tant d'économistes se posent les mêmes questions, c'est pas. Et quand on veut être utile, quand on veut débattre, et Jean-Christophe Cambadélis nous en a donné la possibilité dans le cadre du Parti Socialiste, vous savez bien que moi j'aime bien faire les choses collectivement, eh bien saisissons-la, et puis pas de, entre nous, de faux procès, de diatribes. Essayons tout simplement de débattre et de faire en sorte que notre pays s'en sorte. On a des atouts considérables.
Et ensuite, Martine Aubry,
arrêtons de tirer des balles dans
le pied. Et ensuite, si François Hollande et Manuel Valls ne vous entendent pas, ne vous suivent pas.
Bah écoutez, j'aurais fait ce que je crois utile. Voilà. Et croyez bien que s'il n'y avait pas eu les états généraux, peut-être je ne me serais pas exprimée. Mais j'ai vécu la période 91-93. J'étais ministre du Travail sous Bérégovoy. Je pensais qu'on se plantait sur l'emploi. J'étais ministre du Travail et de l'Emploi. Je l'ai dit en interne, bien sûr, jamais en externe. On m'a dit, tu ne dis rien, tu rajoutes de la crise à la crise. Je me suis toujours dit que quand on croit que ce que l'on dit est juste, eh bien, il faut pas se taire. Alors, quand on est à l'intérieur du gouvernement, on se bat à l'intérieur du gouvernement. Et quand on est à l'extérieur, on essaye de faire passer ses idées dans un débat à un moment où on est au milieu du quinquennat. On a toutes les chances de réussir. La France a des atouts incroyables. Je peux vous assurer, je le vois tous les jours quand je suis en Chine ou dans ma région, où on crée toutes ces nouvelles technologies qui aident les personnes âgées à rester à domicile, qui font de la médecine machines personnalisées, qui aident les enfants dans le numérique à l'école. C'est tout cela qu'il faut aider. Voilà. Et moi, je ne suis pas pessimiste sur mon pays. Voilà, je suis convaincue que François Hollande peut redresser parce qu'il a eu raison de prendre le taureau par les cordes. Il dit je vais continuer les réformes. Mais bien sûr.
Pas pessimiste, Martine Aubry, mais un peu rebelle ou frondeur. Frondeuse, vous avez dit que. Hier dans le JDD, que vous n'aimiez pas le mot. Est-ce que le mot ou l'idée de recours peut davantage vous plaire ?
Non. Non, je ne souhaite pas être un recours. Je souhaite simplement pouvoir débattre. Vous savez, le mot frondeur est devenu à la mode. Je trouve que c'est une erreur d'avoir qualifié comme ça les gens de frondeurs. J'ai vu que vous l'utilisiez pas loin de chez vous pour la publicité. Figurez-vous que la semaine dernière à Lille, il y a une dame qui me dit ma petite fille a levé la main pour poser une question à la maîtresse, elle l'a traitée de frondeur. C'est pour vous dire que même quand on est une petite fille gentille qui pose une question, voilà. Alors, c'est à la mode. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme pour des gens qui veulent la réussite de ce gouvernement. La droite n'a rien compris. L'extrême droite est à nos portes et veut gagner. François Hollande doit réussir et le gouvernement aussi. Donc, qu'on traite autrement. Il y a quelques siècles, on aurait dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, voilà, qui essayent d'apporter l'espoir et d'être utiles à leur pays. Voilà,
Martine Aubry, femme de bonne volonté, ni frondeuse, ni recours.